Voilà, que le Seigneur soit béni. Nous sommes arrivés au troisième jour de notre séminaire et je vais faire un rappel succinct des deux premiers jours. Le premier jour, nous avons essayé de définir, de donner une certaine définition de ce qu'est l'occultisme, la sorcellerie, et on a expliqué que c'était le trafic. Globalement, c'était le trafic avec le monde des esprits. Lorsqu'une personne trafiquait avec le monde invisible, le monde des esprits, il était à un certain stade de l'occultisme et on peut à un certain moment aussi le qualifier d'être sorcier, eu égard à certains stades qu'il peut atteindre dans ses pratiques. Donc on a expliqué que ça allait des héritages familiaux donc on peut recevoir. Lorsqu'on est dans une famille, on peut hériter de certains liens d'occultisme, de certaines pratiques de sorcellerie, de certaines natures de sorcellerie. Ça, c'était le plus simple. Et puis, il y avait aussi tout ce qui est pacte qu'on peut contacter individuellement à travers la voyance, à travers le fait de consulter les médiums. C'est des pactes que nous contractons parfois sans s'en rendre compte, et ça peut être aussi le début de l'entrée dans l'occultisme et parfois l'arrivée dans la sorcellerie. Et on a expliqué aussi que après le niveau des pactes, il y a le niveau de la collaboration avec les esprits, donc c'est le stade qui suit le pacte avec le Satan. Et bien, il y a des gens qui collaborent avec des esprits. Un exemple, les voyants collaborent avec des esprits. Donc les esprits viennent leur donner des informations sur les gens qui viennent les consulter. Et il n'y a pas que les voyants, il y a des gens qui jettent des sorts aux gens. Et donc ils collaborent avec des esprits, donc ils envoient des esprits aller tuer, faire du mal à certaines personnes. Il y a aussi d'autres collaborations. Lorsque il y a des gens qui parfois parlent aux autres d'une manière ou d'une autre, par exemple les musiciens, les politiciens font aussi des contrats magiques pour pouvoir convaincre les autres. Et donc, pendant qu'ils parlent, pendant qu'ils chantent, il y a ces esprits qui vont dans le cœur des gens essayer de les amener à la cause de la personne qui chante ou qui parle. Donc, c'est des réalités. Et après ce niveau de collaboration avec les esprits, on atteint le niveau de voyage astral. Donc il y a des gens qui font des voyages astraux, c'est-à-dire ils arrivent à utiliser leur esprit arrive à sortir de leur corps pour aller ailleurs, puisque l'homme a été créé corps, âme et esprit. Le corps, c'est ce qu'on voit par les yeux, et l'esprit et l'âme, on ne le voit pas avec les yeux physiques, mais c'est des réalités qui existent. C'est ça qu'utilise après les sorciers, ils utilisent leur esprit pour aller ailleurs et faire leur mission. Et c'est ce qu'on appelle voyage astral. Et quand on atteint ce stade-là, on est vraiment en quelque sorte sorcier confirmé ou sataniste confirmé. Mais en tout cas, c'est à peu près ce que nous avons retenu comme explication, définition sur la sorcellerie, sur l'occultisme. Et puis nous avions décrit les conséquences lorsque on entre dans ce système-là, les conséquences sur ta vie et en particulier sur les autres aussi, sur ton entourage. Donc quand on entre dans la sorcellerie, dans l'occultisme, on devient un instrument direct de Satan, c'est-à-dire il commence à passer directement par nous pour nuire à l'entourage et pour nuire à soi-même. Et ces conséquences-là, par rapport à la personne qui entre dans l'occultisme, on avait appelé ça aussi les vrais objectifs du diable. Parce que quand tu entres dans l'occultisme, tu as tes objectifs à toi, mais le diable aussi a ses objectifs pour toi. Et les conséquences qu'il y aura dans ta vie, c'est ça les vrais objectifs du diable. Donc on avait cité le fait que on devenait très très orgueilleux quand on entre dans ce milieu-là d'occultisme, parce que on détient des pouvoirs qu'un homme normal n'a pas ou n'imagine même pas. Donc ça pousse à devenir très très orgueilleux. Et plus on devient orgueilleux, on a du mal à revenir à Dieu puisqu'on se croit déjà fort. Et une autre conséquence, c'est que on déteste après la simplicité. On veut que tout soit compliqué parce que on se sent déjà fort soi-même. Et il y a une autre conséquence, c'est que on se croit déjà arrivé parce que en l'homme, il y a toujours une soif du spirituel, une soif du monde invisible. Et lorsque ces gens-là entrent dans l'occultisme, dans la sorcellerie, ils pénètrent le monde invisible, ils ont l'impression d'achèvement. Ce qui fait que quand on leur présente l'évangile simple de Jésus, ils n'ont pas tellement le goût à ça parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont déjà atteint ce qu'un homme recherche. L'homme recherche l'invisible, il recherche le spirituel. Eh bien, eux, ils y sont. Pourquoi chercher encore à accepter Dieu et voilà, donc ces gens-là, ils se croient donc supérieurs. Et c'est ça l'objectif du diable, que tu crois que tu es supérieur, que tu es plus fort que les autres. Et quand tu crois ainsi, eh bien, tu renies Dieu parce que tu considères Dieu comme ton adversaire. Dieu n'est plus bon pour toi, mais il est ton adversaire. Il est celui qui veut t'empêcher d'être fort. Donc c'est ça les conséquences. Et la plus grave conséquence, c'est que si tu continues comme ça, eh bien, le diable, un jour, il te lâchera, il te fera souffrir sur la terre. Et ensuite, il t'amènera avec lui. En enfer, c'est la plus grave des conséquences. Et les gens qui entrent dans ce monde-là ignorent cela. Parfois, on leur ment. On m'a parlé d'une à qui on a fait croire que quand elle mourra, elle deviendra guerrière et elle va servir Satan. Il y en a comme une guerrière, il y a un à qui on a fait croire que l'enfer ça sera la grosse fête, donc une grosse boîte de nuit quoi. Non, c'est l'enfer, c'est pas une grosse boîte de nuit, c'est vraiment le feu qui brûle. Il y a des souffrances atroces. Les gens qui ont eu des petites visions d'enfer, quand ils témoignent de ça, ils deviennent même malades juste en parlant de ça. Donc il y a un homme qui tapait sa femme autrefois, c'était un soulard, il tapait sa femme. Et sa femme priait. Il ne faisait que taper, faire souffrir sa femme. Et un jour, Dieu a fait goûter à cet homme 5 minutes d'enfer. Donc, pendant 5 minutes, Dieu l'a amené en enfer. Cet homme a vu des démons avancer avec des griffes. Et quand il voulait reculer, il y avait le même démon qui était derrière lui. Ou bien son jumeau peut-être qui était derrière lui. Avec les griffes qui voulaient encore. Donc, il ne pouvait ni avancer, ni reculer. Et des grosses gouttes d'eau chaude qui tombaient sur les gens qui criaient. 5 minutes d'enfer. Quand il est sorti de ça, il s'est converti tout de suite. L'alcool, c'était fini. Hein. Donc, c'est pour dire, lui, il n'a vécu que 5 minutes d'enfer. Voilà comment il a changé. Alors, toi, tu veux vivre des millions d'années? Des milliards? Bien-aimé, c'est très, très, très mauvais. Le deuxième jour, nous avons parlé des pièges qu'il y a dans le milieu chrétien qui amènent les gens petit à petit dans l'occultisme et la sorcellerie. Aujourd'hui, il y a certaines pratiques dans le milieu chrétien qui amènent les gens à cela avec une séduction progressive. Et on a cité le premier problème principal, c'est la volonté d'avoir une puissance personnelle. Quand je dis puissance personnelle, c'est comme de l'argent qu'on met en poche. C'est-à-dire une puissance que tu contrôles. On ne veut pas dépendre de Dieu. On veut avoir une puissance que soi-même on gère. Et c'est ça la volonté des chrétiens d'aujourd'hui. Ils cherchent des dons spirituels qu'ils vont gérer eux-mêmes. Ils cherchent des onctions qu'ils vont gérer eux-mêmes. Eh bien, comme Salomon, beaucoup finissent dans l'occultisme. Et c'est très, très dangereux. Donc, on doit fermer ces portes-là. Donc, on avait cité plusieurs portes à fermer pour ne pas finir un jour ou l'autre dans l'occultisme ou dans la sorcellerie. Et une des portes, c'était le fait d'adorer des hommes, d'adorer des serviteurs de Dieu et de les considérer comme puissants par eux-mêmes. C'était aussi une porte à la sorcellerie parce que quand tu suis un homme et tu considères que cet homme-là a une puissance par lui-même, ça veut dire que tu te soumets à cette puissance-là. Maintenant, si cette puissance-là ne vient pas de Dieu, donc si cet homme-là est magicien et en même temps faux pasteur, eh bien, il va te communiquer son esprit de sorcellerie, il va te communiquer son esprit de magie. Et s'il est un vrai serviteur de Dieu, dans tous les cas, ton attitude d'idolâtrer un homme et de le considérer puissant par lui-même va attirer d'autres esprits qui vont entrer en toi et petit à petit tu glisses dans l'occultisme. Donc on a cité plusieurs portes, on ne va pas toutes les données. Il y a aussi les rêves qu'on ne refuse pas, les rêves, les mauvais rêves qu'on fait, mais qui nous donnent du plaisir pendant la nuit où tu te rêves dans une fête, où tu es comme un prince, tu rêves où tu rentres souvent chez toi, là où tu as grandi auprès de tes parents. Donc des rêves réguliers de ce genre-là sont le signe qu'il y a un problème de sorcellerie, un problème d'occultisme dans ta vie. Donc il faut en être libéré. Et quand on ne refuse pas ces rêves-là, finalement on finit par vivre l'objectif de ces rêves-là et on glisse petit à petit. Et on a fini en concluant, en disant ceci: Dieu veut qu'on vive par la foi et par l'obéissance. Il ne veut pas qu'on se complique les choses. Nous, chrétiens, nous avons besoin de croire en ce qui est écrit dans la Bible et d'obéir à la volonté de Dieu qu'on discerne dans nos cœurs. C'est tout ce qu'il attend de nous. Il n'attend pas de nous qu'on se concentre, qu'on fasse des méditations pour devenir fort, pour avoir des dons spirituels. Il attend de nous qu'on prie seulement et qu'on croit par la foi qu'on a ce qu'on a demandé et on attend. Donc on n'a pas à faire des efforts humains pour avoir les choses spirituelles. Donc restons dans la foi et l'obéissance à la Bible. Et le troisième jour aujourd'hui, nous allons parler de la délivrance. Parce que, comme on l'a dit pendant les deux précédents jours, de plus en plus, il y a des sorciers. De plus en plus, il y a des gens qui fricotent avec le monde occulte. Et même dans les églises, ils viennent nombreux. Et de plus en plus, il y a des chrétiens qui se font ensorceler par des faux pasteurs. Et de plus en plus, il y a des serviteurs de Dieu qui deviennent sorciers parce qu'ils ont tellement cherché la puissance, tellement cherché le surnaturel, qu'un jour ou l'autre, on finit par leur proposer par des gens et ils finissent par accepter parce qu'ils sont déjà esclaves du succès, esclaves du surnaturel. Donc, et à cause de cela, nous devons savoir aussi que Dieu libère. Donc aujourd'hui, nous allons parler du fait que Dieu libère de la sorcellerie, Dieu délivre de l'occultisme, Dieu peut libérer et pardonner surtout. Dieu pardonne et libère. Donc on ne doit pas se décourager par rapport à ça puisque c'est la maladie actuelle dans les églises. Donc il faut qu'on sache aussi qu'il y a une solution par rapport à cela et c'est écrit dans la Bible. Nous lisons Luc 4, 18 à 19. Luc 4, 18 à 19. La Bible dit dans Luc 4, 18 à 19. C'est Jésus qui parle. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur lui. Il a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour dire à tout homme, tu n'as pas besoin de pleurer, tu n'as pas besoin de gémir, parce que la solution c'est moi, Jésus. Je suis venu mourir à la croix en portant tes péchés pour que toi tu sois considéré comme innocent. Et je suis ressuscité le troisième jour afin que toi tu puisses avoir une nouvelle vie. C'est ce que Jésus dit. Il est venu libérer les opprimés. Il est venu proclamer aux captifs la délivrance. Mais les sorciers, les gens qui sont dans le monde occulte, mais sont des captifs. C'est des captifs que Jésus-Christ est venu libérer. Certains pensent qu'ils sont des hommes forts, mais en réalité, ils sont des captifs parce que le diable leur a menti et le diable les manipule, mais ils ne le savent pas. Ils croient être généraux alors qu'ils sont caporaux. Ils croient être commandants alors qu'ils ne le sont pas. Ils croient être forts alors qu'ils ne sont pas forts. Ils croient aux mensonges que le diable leur donne en disant « Tu vas faire 50 ans de pouvoir, 15 ans, 20 ans de pouvoir, 10 ans de succès. » Mais ce n'est pas le cas. Et le diable a aveuglé leur intelligence de, ce que, de sorte qu'ils n'arrivent même pas à prendre leçon, à tirer leçon des gens qui les ont précédés dans leur même style de vie. Lorsqu'on regarde, beaucoup de présidents avaient des super fétiches. On disait même qu'un président disparaissait, le président du Togo, qu'il avait fait un jour un accident d'avion et puis l'avion s'est écrasé, mais lui, il a été retrouvé ailleurs. Donc, il peut même sortir comme un ange, il sort de l'avion et rien ne lui arrive. Mais bien aimé, un jour, où est-ce qu'il s'est trouvé? Au tombeau. Aujourd'hui, où est-ce qu'il est? Il est dans le tombeau. Alors, mais le diable aveugle l'intelligence de ces gens qui font des contrats magiques. Ils ne regardent pas leurs prédécesseurs pour voir que leurs prédécesseurs finissent mal. Comment a fini le Roumain Sosescu, le président? Fusillé comme un animal, comme un lapin. Lui qui a dominé le pays pendant des dizaines d'années. Comment a fini Staline? Au tombeau, Hitler. C'est des gens qui ont fait des grands contrats magiques. Et on leur a dit, mais tu seras toujours le champion, tu gagneras le monde. Mais est-ce que Hitler a gagné le monde? Il n'a pas gagné. Mais les gens qui font la magie ou la sorcellerie, mais ils ne se rendent pas compte que tous ceux qui les ont précédés ont finalement échoué. Pourquoi ils ne se rendent pas compte? Parce que le diable aveugle leur intelligence. C'est écrit dans 2 Corinthiens 4, 4. Si notre évangile est voilé, c'est parce que le diable a aveuglé l'intelligence des gens qui se perdent. Il leur a aveuglé l'intelligence. Ils ne peuvent même pas tirer des leçons simples en observant ceux qui les ont précédés dans les mêmes logiques, dans les mêmes coutumes. Je connais même un président qui avait dit, on ne m'appellera pas ex-président, je mourrai au pouvoir. Mais il est mort ex-président. Pas au pouvoir. Il est sorti du pouvoir avant. On l'a appelé ex-président. Donc il a échoué dans son discours. Mais il y a d'autres satanistes qui lui vouaient une sorte d'adoration. Mais eux, ils ne voient pas que leur maître a échoué. C'est ça le problème. L'intelligence est aveuglée. Et la Bible dit que c'est la parole de Dieu qui ouvre l'intelligence. Que cette parole t'ouvre l'intelligence pour comprendre que le diable ne fait que mentir. Il te promet des choses qu'il n'accomplira pas. Parce qu'il n'a pas pu le faire avec tes prédécesseurs. Mais Jésus est venu libérer tous les captifs sans exception. Dans Luc au chapitre 8, à partir du verset 26, nous voyons Jésus-Christ libérer quelqu'un qui était enchaîné dans les cimetières. Quelqu'un qui avait plus de 5000 démons, Jésus-Christ libéré. Et donc Jésus-Christ peut libérer n'importe qui. Mais c'est vrai, comme on l'a dit hier, c'est vrai que dans certains pays, quand on dit sorcier, on dit sataniste, on trouve ça tellement grave que c'est déjà un problème aussi pour amener les sorciers à la repentance, parce qu'ils ont honte de ce qu'on leur dira, même s'ils viennent confesser, mais comment on les traitera après? Donc il faut qu'on change notre conception, qu'on considère que Jésus-Christ est venu aussi les sauver, et qu'on ne fasse pas, par rapport à leur salut, un cas spécial. Donc ce sont des pécheurs comme les autres pécheurs qui ont besoin de salut, puisque Jésus est venu pour eux aussi. Alors, Jésus est venu libérer tous les captifs, en particulier les satanistes. Alors nous allons citer quelques points très importants par rapport à la délivrance. Le premier point, c'est croire que Dieu est amour et le plus fort. Ça, c'est le premier point. Dieu est amour. Donc il ne veut que faire le bien. Et ensuite, il est aussi le Tout-Puissant. C'est-à-dire qu'il est le plus fort. Il a prouvé qu'il était le plus fort par la résurrection de Jésus-Christ. Il a prouvé qu'il était le plus fort. Lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse au chapitre 12, au verset 7, la Bible dit qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Satan a combattu avec ses anges. Nous allons lire Apocalypse 12. Apocalypse 12. La Bible dit ceci. Au verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel, donc l'ange de Dieu, et ses anges combattirent contre le dragon. Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Dieu est le plus fort. On voit que un seul de ses anges et d'autres anges ont suffi pour terrasser l'armée de l'ennemi. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 20, 21 jusqu'à la fin, nous voyons une fois de plus Satan encore vaincu, lié pendant 1000 ans, ensuite envoyé dans le lac de feu. Mais ce sont des choses, certaines choses arriveront à la fin. Pour le moment, Dieu ne peut pas se battre. Déjà, lui ne peut pas se battre parce qu'il est tout puissant. Mais son armée ne peut pas attaquer les satanistes comme son armée attaque les démons. La Bible dit dans l'épître de Jacques, les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Donc eux, ils voient la grandeur de Dieu. Mais le sorcier, le sataniste, il ne connaît pas forcément la grandeur de Dieu. On le trompe. On lui dit qu'il est fort par les puissances qu'on lui a données. Mais il n'a pas forcément fait l'expérience de la grandeur de Dieu pour reconnaître que Dieu est plus fort que son maître, le diable. Ou alors, certains ont fait cette expérience, mais ils sont tellement mauvais dans leur cœur qu'ils ne veulent pas du bien. Parce qu'en faisant l'expérience de la force de Dieu, ils font aussi l'expérience de l'amour de Dieu. Et il y en a qui ne veulent pas de l'amour. Ils préfèrent la guerre, la jalousie, le meurtre. Donc certains font cette expérience, mais pas tous. La plupart ne connaissent pas la puissance de Dieu, pour la simple raison que s'ils voyaient la puissance de Dieu, ils mourraient en même temps. Or, Dieu veut les sauver. Et Dieu nous a dit dans sa parole, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Il ne veut pas que le sorcier meure. Il ne veut pas que le sataniste meure. Mais il veut qu'il se vive pour se repentir de ses mauvaises voies. Mais pendant que Dieu exerce ainsi son amour, le sataniste croit qu'il est fort. Pendant que Dieu le laisse parfois attaquer ses enfants, juste pour lui montrer qu'il l'aime et qu'il permet que ses enfants souffrent afin de montrer à ce sorcier-là que Dieu l'aime, lui, mais lui, il se croit fort. Et souvent, on leur cite les exemples de qui ? On leur cite les exemples des hommes de Dieu tombés. On leur dit, mais voilà, on a réussi à faire tomber tel pasteur. On a réussi à faire tomber tel chrétien. On a réussi, c'est que leur Dieu n'est pas fort. Et donc, ils se mesurent par rapport à l'homme pour croire qu'ils sont plus forts que le Dieu de ces hommes-là. C'est la plus grosse erreur. Si tu es là ou si tu vas écouter le CD, la prédication, comprends que c'est l'amour de Dieu. Et qui permet que tu vives encore pour que tu te répandes. Mais Dieu est le plus fort. Jésus-Christ n'a jamais péché. Tous les hommes ont eu une semence du péché de leur naissance. C'est pourquoi, sur cette terre, il leur arrive de chuter. Mais ça ne fait pas de leur Dieu un Dieu faible. Il est toujours le Tout-Puissant. Et il a prouvé par son Fils Jésus-Christ, par sa résurrection, par sa vie sans faille. N'attends pas de rencontrer la grande puissance de Dieu parce que ça sera peut-être le dernier jour. Comprends aujourd'hui, et le Seigneur m'a promis qu'il va se révéler à tous ceux qui sont dans les mauvaises pratiques afin qu'ils réalisent qu'il est Dieu. Mais bien aimé, sache qu'après cette révélation, si tu ne changes pas, si tu ne t'humilies pas, Dieu ne va pas, ça ne va pas être un jeu que Dieu fasse à se révéler à toi à tout moment. Il va se révéler. J'ai confiance. Mais il faut comprendre une fois pour toutes que Satan est le plus faible. C'est Dieu qui est le plus fort. Satan est plus faible devant Dieu que tes sandales devant toi. Tu vois tes sandales, tu peux jeter, tu peux en faire ce que tu veux. Elles ne vont pas réagir. Et Satan est encore, Dieu est encore plus fort que le diable. D'ailleurs, il n'y a même pas combat. C'est pourquoi Dieu nous utilise pour combattre l'ennemi. Parce que lui, avec lui, il n'y a pas combat, il n'y a que soumission. Il est le Tout-Puissant. Mais cependant, quand c'est les chrétiens qui sont combattus, parfois ils perdent certaines batailles, mais ils ne perdent pas la guerre, l'ennemi fait croire à ses suppôts, à ses ouvriers, sorciers satanistes, que voilà, on les a eus, donc on est les plus forts. C'est faux. C'est faux. Dieu est le plus fort. Et quand tu vérifies bien, eh bien, vous connaissez beaucoup plus d'échecs que de prétendues réussites. Hein. Mais L'intelligence a été aveuglée pour que vous ne reteniez que les réussites. C'est comme un pays. Vous savez, quand vous parlez à un pays, par exemple, des palmarès de football, ils vont retenir que les matchs qu'ils ont gagnés. Hein. Les matchs perdus, les gens ne retiennent pas. Hein. Donc, on va parler, oui, en 72, notre pays était parti au mondial. Oui, mais depuis 72, ça fait quand même plus de 30 ans. Mais on oublie que donc, ça fait 30 ans et on ne parle plus. Mais c'est comme ça, avec les forces des ténèbres. On va te rappeler que les moments de victoire, on oublie de te rappeler que presque tout le temps tu perds. C'est ça la réalité. Comprends que Dieu est le plus fort. Comprends-le. C'est la vérité. C'est lui le créateur. Est-ce que la créature peut être plus forte que le créateur? C'est impossible. Satan a été un ange. C'est une créature. Dieu, c'est le créateur. Donc, il est le plus fort. Amen. Mais il est aussi amour. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Il dit dans Jean 6, 37, je ne rejetterai personne qui viendra à moi. Je ne rejetterai personne. La Bible dit dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas comme un ticket de match où tu entres mais tu ne changes pas. Non. S'il veut te sauver, il veut que toi tu deviennes aussi comme lui. Que tu sois aussi amour. Et c'est ça qui bloque aussi beaucoup de gens pour quitter le satanisme. Parce qu'ils se disent qu'ils seront obligés d'aimer les gens. Oh, eux, ils ne veulent pas aimer. Ils veulent être le plus fort, dirigé et dominé sur les autres. Eh bien non, Dieu aime. Et il veut que nous transmettre cet amour pour que nous aussi, on aime les autres. C'est pourquoi il a dit, si vous ne pardonnez pas aux autres, moi non plus, je ne vous pardonne pas. Dieu est amour, il veut t'entraîner dans cet amour-là. Si tu es d'accord, nous passons à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est quoi? C'est la repentance. La repentance, c'est quand tu reconnais tes torts, tu demandes pardon à Dieu et tu décides de ne plus retomber dans tes mauvaises pratiques. La repentance est capitale pour la délivrance. On ne peut pas venir demander la prière sans qu'il y ait la repentance, sans qu'il y ait la reconnaissance des torts. Donc ce qui suppose quoi? Tu devras confesser, citer tes péchés, les dévoiler. Tu dois les dévoiler, tu dois dénoncer, confesser, renoncer et puis dénoncer. Qui est cette personne qui confesse ses péchés? Il y a des gens qui disent... Bon, je suis, oui, je demande pardon, ça c'est l'orgueil. Mais c'est ma nature, voilà. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé pardon, il a confessé, mais il n'a pas dénoncé. Dénoncer, c'est accuser. Quelqu'un qui dit, bon, je me suis mis en colère, bon, c'est ma nature. Je demande pardon à Dieu. Donc, il confesse, mais il ne dénonce pas. Quelqu'un qui dénonce, il dit, je me suis mis en colère, je demande pardon, et je ne devais pas le faire. La colère, ce n'est pas une bonne chose. Il dénonce la chose. Et beaucoup de gens confessent sans dénoncer. Ils disent, bon, on n'a pas le choix, je suis comme ça, c'est ma nature, je suis un peu fier. Ah. Mais en même temps, tu confesses ça, mais tu ne veux pas dénoncer. Alors comment pourras-tu renoncer? Tu ne pourras pas renoncer parce que tu n'as pas dénoncé. Oui, on dit, je demande pardon, mais c'est lui qui avait commencé. Donc tu confesses, mais tu ne dénonces pas. Tu donnes une excuse à ton acte. Il n'y a pas de dénonciation. Et donc tu ne pourras pas renoncer. C'est pourquoi beaucoup, malgré leur confession, en réalité, ils ne renoncent pas. Ce n'est pas la vraie repentance. Puisqu'il a manqué quoi? La dénonciation. L'apôtre Paul dit « Dénoncer les œuvres mortes ». Tu ne peux pas te contenter de dire « Je demande pardon » sans attaquer ce que tu as fait comme mal. Il faut l'attaquer, dire que ce n'est pas bon. Et ensuite, tu auras le dégoût pour y renoncer parce que tu l'as attaqué. Mais si tu n'attaques pas ton mal, tu ne dénonces pas ça, eh bien, il n'y aura pas non plus renonciation. Donc, la repentance n'est pas totale. C'est le conseil que je donne. Il faut une repentance complète, confession, dénonciation et renonciation. Et c'est là qu'on est dans la vraie repentance.
Et bien sûr, ça va demander une véritable mort à soi-même. Parce que, vous savez, la mauvaise réputation dans les milieux, surtout africains, la mauvaise réputation des sorciers. Alors, confesser ça, ça demande une vraie mort à soi-même. Accepter d'être humilié, d'être regardé pendant un an, même parfois 2 ans. Tu vas passer, on va dire, c'est l'ex. Mais jusqu'à ce qu'un jour, les gens reconnaîtront que Dieu est avec toi. Dieu fera la différence. Il y a un temps, nous tous quand on était jeunes, on avait des étiquettes dans la famille, donc on pouvait dire, mais celui-là, c'est le moins sérieux, c'est le turbulent, c'est le voleur. Mais un jour, même si tu as changé, l'étiquette continue. Mais un jour, devant l'évidence de ton changement, les gens te feront confiance. Ceux qui te critiquaient vont commencer à dire, voilà l'exemple à suivre. Donc, il faut accepter cette mort-là, liée à cette repentance. Il faut accepter que tu sois mal regardé pendant un temps, jusqu'à ce que Dieu en toi fasse l'épreuve de ton changement. À refuser cette mort à soi-même, refuser ce temps-là de honte, c'est refuser la grâce de Dieu. Jésus a accepté de mourir à la croix. Il y a eu un long moment de honte, long moment, fouetté, mais il savait que cette honte sera brisée par la puissance de la résurrection. Le jour de la résurrection, cette honte-là va s'en aller. Et toi, qui as honte d'avouer que tu es dans la magie ou tu es dans l'occulte ou dans la sorcellerie, eh bien, n'aie pas honte. Avoue et accepte d'être humilié pendant un temps. Mais n'est-ce pas aussi qu'on dit qu'on récolte ce qu'on a semé? Si tu as semé des mauvaises choses, eh bien, c'est normal que tu récoltes pendant un certain temps. Mais après, ça passera parce que la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on ne dénonce pas, on vient voir le serviteur de Dieu pour dire, bon, je pense que peut-être que je suis dedans. Mais on ne dit pas clairement les choses. Il n'y a pas de dénonciation, il n'y aura pas non plus de renonciation. Donc on tourne en rond. Même si on a la volonté de changer, mais on ne veut pas aller jusqu'au bout. On ne veut pas aller jusqu'au bout de la mort à soi-même pour une vraie repentance et la délivrance sera bloquée. Et je vais donner maintenant des détails, mis à part la confession, des détails liés à la nature humaine qui font blocage des sorciers, des satanistes, des gens qui sont dans l'occultisme. Le premier point, c'est l'orgueil. La sorcellerie, le satanisme exacerbe l'orgueil parce qu'on se croit avoir des pouvoirs qu'un homme n'a pas. Et à part l'orgueil d'un homme normal, peut-être d'être beau, fort ou intelligent, on a un orgueil de se croire extraterrestre, supernaturel. C'est un orgueil gonflé. Vous savez, l'attitude que nous avons, les péchés que nous commettons, nous les humains, eh bien, c'est à cause d'une nature pécheresse en nous. Maintenant, cette nature pécheresse, elle est plus forte chez les démons que chez nous. Parce qu'un homme n'est pas capable de tuer 6 millions d'autres personnes. Il n'est pas capable. Même si on a hérité du péché d'Adam, on n'a pas ce mauvais cœur pour accepter de voir 6 millions mourir. Quand des hommes font de telles choses, c'est les esprits mauvais qui viennent entrer en eux, qui leur donnent cette capacité d'être si mauvais. Parce que l'homme, même s'il a la nature pécheresse, il est limité quand même dans cela. Et les esprits mauvais viennent maintenant lui donner une dimension plus forte parce que lui-même a déjà une mauvaise nature et qu'il leur a ouvert les portes. Donc les démons sont plus mauvais de loin que le plus mauvais des hommes. Sont plus mauvais. Et c'est pourquoi Judas, même pour trahir Jésus, il a fallu que Satan entre en lui. C'est-à-dire qu'il était déjà mauvais, mais pour passer le cap de la trahison, Satan est entré en lui et a appuyé encore. La Bible dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Il était déjà mauvais, mais pour faire encore des actes plus mauvais, il a fallu l'endurcissement venant du diable. Donc c'est clair. C'est que les démons sont encore plus méchants. Et quand on entre dans la sorcellerie, dans le monde occulte, on va acquérir un orgueil plus fort que l'orgueil humain normal. Donc on se croit supernaturel, extraterrestre, et cet orgueil-là est très fort. Et c'est là un des points problématique par rapport à la conversion des occultistes. Ils doivent renoncer à être les plus forts. C'est ça qui les tue. Et vous allez constater qu'en réalité, ce qui bloque la conversion des occultistes, des sorciers, en réalité, c'est des choses que les hommes qui ne le sont pas font aussi. Et qui vont les amener aussi en enfer. Nous revenons finalement à la chair. Ce n'est pas parce qu'ils ont trafiqué avec le monde spirituel que la porte du ciel leur est fermée. Vous allez voir que la porte du ciel leur est fermée juste à cause des mêmes raisons pour lesquelles la porte du ciel est fermée à d'autres qui ne sont pas sorciers, c'est-à-dire l'orgueil. C'est l'orgueil qui fait que les autres aussi, certains ne reçoivent pas le Seigneur. C'est l'orgueil. Le fait de se croire être quelqu'un. Mais le problème, quand on entre dans le monde occulte, cet orgueil-là est surdimensionné encore. Parce qu'on a des pouvoirs qu'un homme normal n'a pas. Il y a la volonté de paraître. C'est quelque chose, quand on entre dans le monde occulte, on a ça fortement. La volonté d'épater. La volonté de paraître. C'est-à-dire, vous savez, les histoires où on parle des fées, des enchanteurs, Merlin l'enchanteur, voilà. Donc les sorciers, ils se prennent pour des fées, donc des gens qui ont des pouvoirs surnaturels. Par exemple, ils peuvent te donner une magie pour pouvoir voler les gens. Il vient, il te fait, peut-être il souffle sur tes yeux, et il prend de l'argent dans ta poche, il s'en va. Et toi, tu t'en rends compte 30 minutes après ou 5 minutes après, il a disparu. Donc, pour eux, ce sont des exploits. Donc, pour eux, c'est le paraître. Ils font des exploits. Cette envie-là de paraître, eh bien, c'est aussi un grand problème. C'est ce qui fait qu'ils ont du mal à venir au Seigneur. Et je vous cite des choses. Finalement, on se rend compte que c'est les mêmes choses qu'on retrouve chez les autres pécheurs qui ne sont pas sorciers. C'est le même problème. Donc ce n'est pas le trafic avec le monde spirituel qui est le blocage par rapport au ciel. En lui-même, c'est tout ce qui est lié à ce qui empêche ces gens-là de revenir à Dieu. Et la volonté de paraître, le refus de transparence. Quand on n'est pas dans une transparence totale, eh bien, on va toujours cacher des choses. Et en cachant des choses, on reste dans le flou, on reste dans le péché. Donc il faut... Si on veut une vraie délivrance par rapport à l'occultisme, il faut être transparent. Tout dire ce qu'on a fait. Être transparent n'est pas avoir honte qu'on connaisse ce que tu as fait, parce que si tu caches ça, tu restes dans le flou et c'est très dangereux. Et on retrouve le même problème aussi avec les autres. Quand quelqu'un refuse la transparence, en général, il refusera aussi la vérité. Ça va ensemble. Quelqu'un qui n'est pas transparent n'aimera pas non plus la vérité totalement. C'est aussi un problème. La convoitise. Souvent, beaucoup sont devenus entrés dans le monde occulte. Pourquoi? Par convoitise. Quelqu'un qui veut devenir, président de la République, eh bien, s'il le veut tellement fortement, il est prêt à tout. Je me souviens d'une phrase, de Mobutu, l'ex-président, le feu président, enfin l'ex-président plutôt du Congo, mais il a dit je suis prêt à faire le contrat. C'est, on a vu ça à la télé, hein. Je suis prêt à faire le contrat avec le diable pour garder ce pays uni. Donc parce qu'il y avait guerre, donc il voulait dire par là que il y aura pas de division du pays, il gagnera la guerre et pour cela il est prêt à faire le contrat avec le diable. Il le dit. Donc là c'est encore aujourd'hui, tu peux, si tu veux voir les documentaires, il le dit clairement. Je suis prêt à faire le contrat avec le diable pour garder ces pays unis. Donc, sa convoitise d'être président d'un grand pays est tellement forte qu'il était prêt à faire des contrats avec le diable. Donc, et c'est ces convoitises-là qu'on doit attaquer. Il ne suffit pas de dire aux gens, tu es sorcier, arrête. Non, mais pourquoi il est sorcier? Parce que, pourquoi il est dans l'occultisme? Pourquoi il est dans le satanisme? Mais parce qu'il veut gagner telle chose, parce qu'il veut la richesse, être attirant, parce qu'il veut, se venger. Eh bien, toutes ces convoitises-là, ce sont ces convoitises qu'il faut attaquer, parce que c'est ça la cause du fait que cette personne-là a fini par verser dans le satanisme, dans la sorcellerie. Et il y a toutes sortes de convoitises. Je connais des gens qui veulent tellement, tellement avoir des dons extraordinaires, qui sont prêts à tout. Ils sont prêts à aller aux États-Unis se faire imposer les mains par des faux pasteurs. Ils sont prêts à voyager quand ils apprennent que c'est en Suède. Il y a un réveil en Suède, il y a quelqu'un qui est en train d'imposer les mains, on reçoit des dons, ils vont. Et bien, ils finissent par recevoir quoi? Des serpents, des esprits de divination. Et certains deviennent souvent sorciers, petit à petit sans s'en rendre compte, parce qu'ils sont prêts à tout pour satisfaire leur convoitise. Donc il faut faire très attention aux convoitises. Soyons des hommes simples, des gens qui se contentent de ce que Dieu leur donne. C'est très important. Dès que tu es dans les convoitises, c'est difficile. Donc c'est pourquoi, pour qu'un sataniste soit délivré complètement, il doit renoncer aux convoitises qui étaient à l'origine de son entrée dans le monde spirituel, dans le monde invisible. Il ne suffit pas de dire, je ne veux plus être sorcier, alors qu'on continue toujours à aimer ce qui nous a amené à devenir sorcier. Mais ça ne marchera pas. Parce que le jour où on aura un manque, le jour où on n'aura pas ce qu'on veut, on retournera encore. Et je connais beaucoup de gens qui sont venus à Christ. Et quand ils n'ont pas eu ce qu'ils attendaient de Dieu, ils sont retournés chez le diable pour avoir cela rapidement. Parce qu'ils étaient venus en Christ en disant, je ne veux plus de la magie, mais ils continuent à vouloir de l'argent. Ils continuent à vouloir du succès. Et donc, en venant à Christ c'est la simplicité. C'est Dieu qui pourvoit. Tu ne dépends de lui maintenant. Ils n'ont pas accepté ça, qu'ils dépendent de quelqu'un, alors que là-bas, ils faisaient des formules magiques et ils avaient ce qu'ils voulaient. Alors, leur convoitise les a ramenés encore au diable. Donc, il faut renoncer aux convoitises de ce monde. Je le répète encore, finalement, c'est le même problème qui amène tout le monde en enfer. C'est le même problème qui bloquera la porte aux sorciers pour aller au ciel. C'est le même problème, la convoitise. La colère. Certains sont devenus sorciers à cause de la colère. Tellement ils détestent quelqu'un, il est entré dans ce monde-là pour pouvoir se venger de la personne. Il y a des gens, je connais quelqu'un qui a témoigné, il était normal, mais on a décimé sa famille par des sorciers. Alors lui, il s'est dit, moi aussi je vais entrer dans la magie pour me venger. Et il était animé d'une colère intense. Et de telles personnes, pour être libérées de la sorcellerie, ont besoin de comprendre qu'il faut pardonner et que Dieu est juste. Il jugera tous ceux qui font le mal. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laissons Dieu juger, les autres. C'est pourquoi il y a un verset dans 1 Jean qui dit, celui qui hait son frère est un meurtrier. Pourquoi? Parce que la colère devient une puissance qu'on donne au diable pour nous utiliser notre esprit pour aller attaquer les autres. Donc la colère, c'est l'une des choses qui amène rapidement aussi à la sorcellerie et qui empêche aussi quelqu'un de quitter la sorcellerie ou le satanisme parce que la colère l'anime. Et comme je vous ai dit, ces choses-là que les humains font normalement, eh bien, quand on est dans ce monde-là, ça se démultiplie. La dimension de la colère augmente encore plus. C'est des gens qui sont prêts à dire, bon, tuez-le, éliminez-le, faites ceci. Parce qu'ils ont une dimension de colère surdimensionnée parce qu'ils sont en contact avec le monde démoniaque directement. C'est ça qui se passe. Et donc, ils doivent apprendre à pardonner et s'ils veulent une délivrance totale. Donc, quitter le monde de la colère. Il y a la logique de puissance. C'est ça, l'un des plus grands problèmes. La logique de puissance. Vous savez, les satanistes ne connaissent que ça. La logique de puissance. Ils ne parlent que de puissance. Ils en cherchent et en recherchent. Eh bien, quand tu te repens, tu dis, je ne veux plus être sataniste, je ne veux plus être sorcier, il faut aussi rejeter la logique de puissance. Parce que si tu ne la rejettes pas, tu vas la chercher aussi chez Dieu. On a vu ça hier, non? Avec qui? Avec Simon le magicien. Il avait des grandes puissances dans le monde satanique. Il en avait des grandes, à tel point que tout le monde pensait que c'était lui qui était Dieu. Mais quand il a vu le serviteur de Jésus, il a compris qu'il y a une puissance plus grande que la sienne. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est converti. Il est devenu chrétien. Mais quand il est devenu chrétien, il a commencé à chercher aussi la puissance. À tel point que quand il a vu Pierre et Jean manifester la puissance, il a dit, je veux acheter ça avec l'argent. Donc, il s'était converti. Il avait quitté sa magie sans quitter la logique de puissance. Et c'est ça là, c'est à ce moment que Pierre dit, tu es infiel à mère, tu es méchant, l'iniquité est en toi, parce que tu n'as pas quitté la logique de puissance. Tu veux une puissance que tu peux contrôler encore en achetant par l'argent. Or, nous sommes puissants par Dieu. C'est ça la réalité. La logique de puissance, c'est un plaisir tellement dans le monde magique. Vous savez, là, je parle de problèmes liés à la chair, mais il y a des plaisirs liés au monde magique. Et la puissance est un plaisir pour ces gens-là. Avoir de la puissance. À tel point que Simon a voulu acheter ça. Total. Donc ça, c'était tout ce qui est lié à la chair qui empêche une vraie délivrance totale donc, d'un sorcier, d'un sataniste. Donc il faut toucher aussi ces points-là. Il ne suffit pas de dire seulement il faut quitter la magie, il faut quitter la sorcellerie. Il faut toucher toutes ces causes-là, tous ces points d'attache qui font que cette personne-là a du mal, aura du mal, même s'il se convertit officiellement, à quitter ce monde-là de la sorcellerie. Et puis, toujours dans cette partie, après avoir touché le problème de la chair, nous touchons à la délivrance elle-même. C'est-à-dire que cette personne-là doit renoncer aux esprits collaborateurs. Quand il était dans le satanisme, quand il était sorcier, ou même si c'est inconscient, il y a des gens qui sentent qu'ils ont des puissances en eux. Il y a, par exemple, il y a des gens dès l'âge, par exemple, de 4 ans, 3 ans, tu avais une force anormale. Ou tu avais une séduction anormale. Il y a des filles de 7 à 7 ans qui arrivent à attirer des grandes personnes parce qu'ils ont une puissance de séduction anormale. Tu sais en toi, tout le monde sait en lui, et ceux qui sont dans ce cas-là, des puissances anormales que tu sais qu'il y a en toi. Parce qu'à ton âge ou bien ce qui se passe en toi, ce n'est pas normal. Tu sais. Alors toutes ces puissances-là, à un moment, si tu veux vraiment servir Jésus, il faut dire, je renonce à tous ces esprits collaborateurs. Tout cela qui me donne telle force, tout cela qui me donne telle puissance de séduction, tout ce qui me donne mon intelligence que je trouve anormale. Donc, chacun le saura. Donc, je ne suis pas en train de dire que si tu es très intelligent, c'est anormal. Non. Chacun saura que ce qu'il a est à peu près anormal. C'est comme un don naturel, anormal, donc que tout le monde n'a pas. Il faut réfléchir à tout ça. Si tu commences à sentir que ce n'est pas de Dieu, c'est vraiment des puissances démoniaques léguées par la famille. Je connais des familles où le papa et la maman sont partis voir un magicien pour que tous leurs enfants réussissent à l'école. Ça veut dire que certains même, donc la veille de chaque examen, il a déjà en vision tout ce qui sera posé comme question. Régulièrement, ça peut arriver une fois. Dieu peut nous aider une fois comme ça, il nous donne quelques questions. Mais quand ça se devient régulier, donc là, il y a un problème. Et donc parce qu'il y a des parents qui vont faire ce genre de contrat pour que leurs enfants réussissent. Et alors, quand tu sens réellement que vous avez une puissance anormale dans la famille, il faut être... Si tu veux une délivrance totale, renoncer à tous ces esprits collaborateurs. Tu dis, je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Et renoncer aussi aux esprits guides pour ceux qui font des voyages astraux. C'est-à-dire tous ceux qui pendant la nuit, se déplacent d'endroit en endroit. Qu'est-ce qui leur permet de faire ces voyages-là? C'est des esprits guides qu'on leur donne, qui sont comme des avions pour eux, quoi. Et donc... ils arrivent à les sortir de leur corps et les amener d'endroit en endroit. Il faut dire, esprit guide, je renonce à toi, je ne veux plus de toi. Donc il faut renoncer à ces esprits guides qui te font voyager et ils s'en iront au nom de Jésus-Christ. Ensuite, on prie pour la délivrance dans le nom de Jésus. Alors, je vais dire un point très important. Vous savez, on croit que plus il y a le mal, plus la délivrance est difficile. Mais la Bible dit dans Romains 5, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, ne te fais pas de films sur la difficulté de ta délivrance. Dieu peut te délivrer en un instant. Parce que le démoniaque de Gadara a été délivré en un instant. Fais confiance à la toute-puissance de Dieu. Ne regarde pas parce que la délivrance de ton voisin est en train de traîner. Ce n'est pas ton problème. Toi, concentre-toi sur la parole. Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour déclencher le processus de la délivrance? La sincérité et la foi. Si tu es sincère dans ton cœur, que tu ne veux pas de monde, du monde du diable, sincère dans ton cœur, que tu cherches Dieu, parce que certains sont dans la sorcellerie, pensent y trouver Dieu aussi, parce qu'ils cherchaient la puissance la plus grande. Alors on leur a proposé ça, ils y sont entrés. Mais si vraiment ils sont sincères qu'ils cherchaient Dieu, Dieu finit par les sortir de là. Si tu es sincère, il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui se croyaient mauvais, qui tapaient les autres. Et on les amène en prison, ils rencontrent des plus mauvais qu'eux, c'est là qu'ils se disent non, c'est pas bon. Quand eux, ils le faisaient, ils trouvaient ça normal. Mais quand ils ont vu les autres être plus méchants qu'eux, ils ont compris que la méchanceté, c'est mauvais. Donc dans leur cœur, ils sont sincères qu'ils ne veulent pas de ça. Dieu finit par les sortir. Je voulais insister sur la sincérité. Sois sincère dans ton cœur. Si tu es sincère vraiment que tu ne veux pas du monde du diable, tu ne veux pas du monde de la haine, tu ne veux pas du monde de la puissance où on fait du mal aux autres, tu ne veux pas de ce monde-là, si tu es sincère, Jésus-Christ viendra te chercher. La Bible dit dans Psaume 34, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Si tu pousses vraiment un cri dans ton cœur en disant, Jésus, je ne veux plus être sorcier, aide-moi, il viendra t'aider. C'est le point le plus important. C'est ta sincérité et ta foi. Si tu es sincère et que tu as la foi, Jésus-Christ, c'est lui qui les libre. C'est lui qui libère. Il viendra. Si une église, on dit, ah ben ce pasteur n'est pas efficace, ce n'est pas un pasteur qui libère. C'est Jésus-Christ qui libère en utilisant des hommes. Eh bien, il t'amènera l'homme qui utilisera pour toi. Mais toi, cherche Jésus. Ne cherche pas un homme, cherche Jésus. Et sois sincère. Vous savez, il y a un homme qui était un adepte de Sai Baba. C'est un Indien qui fait de la magie et qui a des adeptes aux États-Unis, en Inde. Et cet homme, à partir de Sai Baba, il était devenu lui-même sorcier. C'est-à-dire qu'il arrivait en se concentrant à voir Sai Baba venir physiquement chez lui, quoi. Un jour, il est tombé sur un tract d'une église qui ne prie même pas pour la délivrance des sorciers, hein. L'église baptiste des États-Unis. C'est une église qui ignore même qu'il y a... Parfois, certains ne reconnaissent même pas l'existence des démons. Mais, curieusement, cette église-là reconnaissait. Alors, il tombe sur le tract. Et sur ce tract-là de l'église, c'était écrit « Bien-aimé, éprouvé ». C'est la version le passage de 1 Jean 4. « Bien-aimé, tout esprit qui vient n'est pas de Dieu. Il faut les éprouver pour savoir s'ils viennent de Dieu. » Tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. Alors, le monsieur, donc on va lire le passage en même temps. C'est beau ce passage-là. 1 Jean, soit le chapitre 2, non, le chapitre 4, au verset 2 plutôt. On commence par le verset 1er. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Amen. Alors, vous savez, il y a certaines personnes qui sont dans le monde occidental. On leur dit Jésus est un maître, Bouddha est un maître, Mahomet c'est un maître. Hein, on peut tous le suivre, il n'y a pas de problème. Donc cet homme-là était dans cette logique-là. Maintenant, lui, il suivait Sai Baba. C'est aussi un maître comme Jésus. Et maintenant, dans ce tract-là, c'est écrit, non, tout esprit n'est pas de Dieu. C'est le verset qu'on vient de lire. Éprouvez tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus-Christ venu en chair, eh bien, il n'est pas de Dieu. Alors lui, il s'est dit, bon, d'accord. Comme lui, il savait qu'il avait ses esprits en lui. Il était devenu magicien. Il avait des esprits, collaborait avec des esprits. Ils étaient en lui. Il a dit, bon, je vais leur poser la question pour savoir s'ils sont de Dieu. Est-ce qu'ils reconnaissent Jésus-Christ venu en chair? Il a dit, esprit qui est en moi, est-ce que vous reconnaissez Jésus-Christ venu en chair? Bien-aimés, les esprits ont commencé à s'agiter comme s'ils étaient assis sur une plaque de réchaud, quoi. Il dit, mais oh, mais est-ce que vous reconnaissez Jésus-Christ venu en chair? Quand il a compris que c'était des envahisseurs, il a dit, alors si vous ne reconnaissez pas Jésus-Christ venu en chair, vous quittez ma vie. Bien-aimés, ils ont commencé à sauter. Un à un, ils ont quitté sa vie. Et il est devenu un chrétien, confirmé. Mais qui est-ce qu'il a délivré? Ce n'est pas un pasteur. C'est Jésus-Christ qui l'a libéré. Rien qu'avec un verset. Rien qu'avec un verset. Éprouvez. Pose-leur la question. Est-ce qu'ils reconnaissent Jésus-Christ venu en chair? Parce qu'un démon, s'il reconnaît que Jésus-Christ est venu en chair, ah donc c'est sa défaite. Jésus-Christ est venu en chair, il est mort à la croix, ils ont perdu la bataille. C'est ce qui est écrit dans Colossiens 2, 14 à 15. Par sa mort à la croix, il a déchiré les documents qui nous accusaient et il les a traduits en spectacle, il les a vaincus. C'est pourquoi à la croix, Jésus a crié, tout est accompli. Alors un mauvais esprit aura du mal à reconnaître Jésus-Christ venu en chair parce qu'il reconnaît ainsi sa défaite, donc il est obligé de lâcher prise. Et quand il a fait cette récitation-là, ils ont lâché prise. Il a été libéré, bien-aimé. Un jour, un grand sorcier dont le livre sera mis à disposition à la bibliothèque, William Chamberlain, un ex-grand sorcier. Lui, il est devenu, il a fait tous les cours. Il est arrivé au niveau de boire du sang humain. Donc c'était maintenant, il sortait la nuit comme un vampire. Il est arrivé au niveau de vampirisme. Il prenait des prostituées, il les coinçait, il les suçait leur sang au cou. Il a marché dans tous les niveaux du satanisme. Mais, à un moment dans sa progression, il était devenu des envoûteurs de maison. Et un jour, ils sont partis désenvoûter une maison, ça n'a pas marché. Ils ont fait leurs incantations pendant des heures et des heures, ça n'a pas marché. Mais sa femme, quand elle était jeune, elle avait environ l'âge de 14 ans, elle s'était convertie dans une église. Elle s'est souvenue qu'il paraît que le nom de Jésus aussi, ça libère. Elle qui était aussi sorcière, hein? Mais elle s'est dit, bon, comme là on est en train d'échouer, je vais essayer. Elle a dit, au nom de Jésus, esprit qui dérange cette maison, sort. Aïe, 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 c'était comme une tempête qui a soufflé. L'esprit qui était dans la maison est sorti vite fait, bien-aimé. C'est là qu'ils ont commencé à comprendre que le nom de Jésus est le plus fort. Si Jésus-Christ est parti chercher ce grand sorcier-là, vous savez pourquoi il a été libéré? Parce que dans son cœur, il pensait chercher Dieu. Il pensait trouver son problème à lui, il cherchait la plus grande puissance de l'univers. En réalité, il cherchait Dieu. Mais comme aucun chrétien ne s'était présenté à lui, alors il a glissé dans la sorcellerie, il cherchait la plus grande puissance. Et on lui avait promis que quand il va commencer à boire du sang humain, c'est là qu'il va devenir lui-même Dieu. Mais il a bu le sang humain, et il est resté homme. D'ailleurs, il était devenu fatigué encore. Donc, bien-aimé. Mais comme en réalité, dans son cœur, il cherchait Dieu. Dieu a fini par le sortir de là. Si tu es sincère, Dieu te sortira. Dieu te sortira. Si tu es sincère et que tu as la foi en Dieu, même si aujourd'hui tu as honte d'avouer, dis dans ton cœur, Jésus, j'en ai marre. Donne-moi le courage d'avouer. Sois sincère. Si tu es sincère, le Seigneur te libérera. Il est fidèle. Et pour ceux pour qui on a prié et parfois la délivrance semble traîner, la Bible dit, il faut persévérer. Il faut persévérer. La persévérance, c'est la preuve qu'on croit réellement. La foi, ce n'est pas un café instantané. C'est quelque chose lié au temps. Il faut persévérer. Il y a une femme qui était devenue médium, canalisatrice, comme on dit. Elle canalisait les esprits, dont les esprits parlaient à travers elle aux autres. Un jour, elle a dit, je suis fatiguée, vous me dérangez à tout moment. Je vais aller à l'école, déposer mon fils, vous me dérangez. Alors, écoute, il leur a dit amicalement. Elle leur parlait, c'était des gens qui partageaient sa vie, ces esprits-là. Qui ont réussi à la faire divorcer d'abord. Ensuite, ils ont commencé à empester sa vie. Elle leur a dit amicalement, écoutez, je ne veux plus de relation avec vous. Est-ce qu'on peut se séparer à l'amiable? Il y a même un esprit qui a fait semblant de pleurer. Ah, tu ne veux pas de nous. Mais bien aimé, 5 minutes après, ils sont revenus en colère. Ils ont dit, tu es à nous, tu ne peux pas nous quitter. La vie de cette femme est devenue l'enfer. On laisse changer la cassette. Merci Seigneur de continuer à nous soutenir et de nous amener, d'amener chacun à la délivrance totale dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sa vie est devenue un enfer compliqué. Elle a souffert terriblement et un jour, on lui a donné l'adresse d'un pasteur qui lui a parlé de l'évangile. Elle s'est convertie. Et quand elle s'est convertie, elle a senti la puissance de Dieu venir en elle. Elle a senti qu'elle était devenue une nouvelle créature. Mais cependant, elle continue à entendre les voix de ces esprits-là, l'embêter à tout moment, la déranger. Elle continuait. Parfois, ça s'est calmé, mais ça continuait. Alors, elle a commencé à aller d'église en église, de séminaire en séminaire, chercher une délivrance. Mais un jour, elle est tombée même dans un séminaire où un pasteur disait, écoutez, tout l'occultisme, hein, mais dans l'église, il disait, écoutez, parfois sans le savoir, mais les gens suivent les modes. Hein, il dit, je prie pour vous, ceux qui vont se concentrer bien, ils vont voir Jésus leur apparaître. Et elle s'est concentrée pour voir Jésus. Elle a vu aussi Jésus. Elle a dit, ah, Jésus. Et puis le Jésus l'a rigolé, a dit, on t'a eu. Hein. C'était un mauvais esprit. Donc, qui est venu comme un ange de lumière. Et c'est écrit dans la Bible, Satan se déguise en ange de lumière. Il ne faut pas chercher à faire des visions. Il faut chercher à croire. Que Dieu se révèle à toi, c'est lui qui choisira la manière de se révéler. Soit par vision, soit par parole, tout ce qu'il veut, c'est lui qui décide. Quand toi tu commences à chercher ou à imposer, eh bien, les mauvais esprits, tu les attires. À un moment, elle a compris que un serviteur lui a dit, ma soeur, aie foi en Dieu. Un jour, tu n'entendras plus aucune voix. Mais toi, occupe-toi de ressembler à Dieu. Cherche Dieu par la foi. Cherche le fruit de l'esprit à le vivre. Et c'est ce qu'elle a fait. Un jour, elle n'a plus entendu des voix. Ça ne s'est pas passé instantanément, mais ça s'est passé. Nous n'avons pas la même constitution. Nous n'avons pas le même background. Nous n'avons pas le même passé. Nous n'avons pas le même avenir. Dieu nous libère tous à sa manière à lui. Il sait comment il s'y prend. Ne nous lui imposons pas. Nous considérons que du moment où nous venons en Jésus, c'est fini, on est libéré. Même si certains dommages continuent, nous allons persévérer dans la foi, ça cessera. Ça, c'est ce que nous savons. Amen. Donc, il faut qu'on persévère. Donc, même s'il y a certains blocages, il faut que nous continuions à persévérer. Et nous finissons par dire merci à Jésus. Parce que la Bible dit, dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et la vérité, c'est quoi? C'est que Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit, quiconque croit en lui, n'importe qui, du moment que tu es humain, quelle que soit ta position dans le monde satanique, si tu crois en Jésus, tu auras la vie éternelle. Quelle simplicité de salut, quelle facilité, et nous le remercions pour cela. Et la Bible dit dans Jean 8, 36, si le Fils vous a franchi, vous serez complètement libre. Voilà, mes frères et sœurs. Dieu est bon et il nous a envoyé Jésus. Alors, tous ceux qui sont dans le monde occulte ou tous ceux qui subissent les influences du monde occulte, quels que soient les degrés, Dieu veut nous libérer aujourd'hui. Pour éviter que certaines personnes, par honte, ne puissent pas s'avancer, nous allons rester à nos places et nous allons tous nous lever et nous allons prier le Seigneur de sorte qu'il nous libère totalement, quelles que soient les influences néfastes qu'on peut subir du monde satanique. Et même si on est nous-mêmes acteurs et qu'on n'en veut pas, le Seigneur va nous libérer. Nous allons chanter « Jésus-Christ est Seigneur ». C'est lui qui a le dernier mot.
concentre-toi sur Jésus. Il est Seigneur.